D'accord.
C'est un peu mon histoire.
Tu crois ?
Oui.
Vas-y, je t'écoute.
Les chercheurs de l'Arc analysent, scrutent, détricotent, critiquent notre société. Leurs écrits trouvent un écho chez vous, chez nous, dans nos vies. Alors dans ce podcast, on a décidé d'ancrer leurs analyses dans le réel, de les illustrer, de les nourrir, de les enrichir en invitant celles et ceux qui sur le terrain bougent, subissent, se mobilisent, expérimentent et pensent.
Du taf au fumoir, un podcast qui vous parle
sans fausse modestie,
sans tabou,
ou presque
sans a priori, si c'est possible,
de problématiques qui traversent notre société,
avec des gens du terrain,
on va réfléchir ensemble,
et puis si on doute, c'est tant mieux.
Du taf au fumoir.
Nous sommes au début de la crise Covid en Belgique. Nos activités sont interrompues, comme bien d'autres. Tout le monde a pour consigne de se protéger, mais personne ou presque, pas même dans les hôpitaux, n'a de quoi se protéger. Amélie, animatrice à la boîte à recoudre, et Marie, participante, très vite et avec d'autres, vous avez proposé de faire des masques. Les pouvoirs publics ont eu recours à ce bénévolat. Les demandes sont devenues énormes, excessives, sans que pour autant ce travail ne soit reconnu. Cela vous a amené à vous poser des questions. Carnot, alors chargé de communication à l'ARC et actuellement indépendant comme soutien technique à la communication dans des ASBL, a relayé dans son analyse qu'il a intitulée « Travail invisible quand tombent les masques ». Donc vous voilà tous les trois présentés, bonjour à tous les trois. Et il reste encore Fabio qui est là pour poser la question plus large du bénévolat en général.
Celles qui ont vendu des masques, soit à prix coûtant, juste pour pas y perdre d'argent, soit en faisant des bénéfices parce que t'as besoin de vivre, on les a insultées.
Si vous voulez continuer la réflexion par rapport à l'invisibilisation d'une partie de la chaîne de l'industrie textile, nous organisons chaque année une journée de sensibilisation à la fast fashion à Bruxelles. Cette année, c'est le 9 octobre. Et également des ateliers de couture et citoyenneté. Toutes les informations à ce propos sont sur notre site, ainsi que l'analyse d'Arnaud, de laquelle part cet épisode. Notre site, c'est arc-culture.be.
Arnaud, je vais commencer par toi. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as voulu écrire cette analyse ?
L'écriture de cette analyse s'inscrit dans le contexte du tout début de la crise sanitaire, alors que moi j'ai très très mal vécu en fait le fait d'être enfermé chez moi et d'être conditionné à rester à la maison et ne rien pouvoir faire. Donc je voyais à la télévision, sur les réseaux sociaux, qu'il y avait tout un tas de personnes qui s'activaient et tout un tas de professions qu'on avait classées comme essentielles. Et moi, j'ai été un peu vexé de me rendre compte que je faisais partie des non-essentiels et que je n'avais du coup pas d'utilité dans l'espace public et pour la citoyenneté. J'ai passé vraiment beaucoup, beaucoup de temps à me dire « Je suis inutile, il faut que je trouve absolument un sens à mon confinement ». Pour moi aussi faire partie de ces gens qui participent à lutter contre le coronavirus et contre la crise. Et en discutant avec mes collègues de l'époque de l'ARC, j'ai entendu des récits qui venaient un petit peu contredire mon intuition, comme quoi nous étions inutiles et qu'on avait absolument besoin de faire quelque chose et d'être bénévole, notamment via ma collègue Joël, qui est responsable de l'atelier La Boîte à Recoudre, qui m'a dit tu sais, au sein de La Boîte à Recoudre, les gens qui travaillent à la conception des masques et qui les distribuent pour pallier au manque de masques pour les gens, disent qu'ils sont peut-être pas spécialement satisfaits en fait de ce travail bénévole, et il y a quelques petites contradictions dans la manière dont on les exploite, parce que c'est vraiment le mot qui est utilisé, c'est pas forcément dans la manière dont elles s'investissent, mais dans la manière dont on les exploite. Alors j'étais un petit peu surpris par le fait qu'on puisse se ressentir exploité alors qu'on est soi-même investi comme bénévole. Et donc j'ai un peu discuté avec elle. Elle m'a envoyé quelques propos qu'elle a recueillis lors des ateliers. Et en lisant ce que les participantes et animatrices disaient, je me suis rendu compte que ça correspondait beaucoup à un travail qu'on avait fait à l'ARC quelques mois avant sur le travail des femmes dans les hôpitaux. Où la personne qui était venue parler, c'était Denis, qui était venu nous exposer son mémoire et qui nous avait expliqué que dans le travail, dans les inégalités qu'on retrouve dans le milieu hospitalier, c'était essentiellement une inégalité de genre, où les femmes qui sont circonscrites au métier du care, donc du soin, sont systématiquement dévalorisées. Et dans ces propos donc, qui remontaient de la boîte à recoudre et où les participants nous disaient mais c'est quand même un petit peu bizarre que alors que la plupart des gens qui travaillent sont rémunérés, nous on fait des masques, on nous en demande d'en faire 50, 100, 200, 250, mais par contre on nous demande d'investir notre propre argent et en plus on ne nous rémunère pas, on nous reproche même de ne pas aller assez vite. Enfin voilà, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc j'ai proposé de rédiger un petit texte qui allait essayer de rendre honneur à ces propos et de réfléchir, de prendre un petit peu de recul sur les mécanismes qui sont en jeu dans ce processus en fait, hein, où la société nous dit vous devez vous rendre utile, on se rend utile, mais on n'en est pas, on n'en sort pas satisfait. Donc voilà. Donc ce qui est sorti de cette analyse, c'est qu'il y a effectivement un problème endémique, on a tendance à exploiter le travail des ouvriers et essentiellement le travail des femmes.
Oui, justement, j'allais te dire, tu as ressorti dans ton analyse trois niveaux d'invisibilisation. Et est-ce que tu peux nous les développer ?
Donc quand j'ai commencé à travailler sur l'analyse, je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement trois niveaux d'exploitation et d'invisibilisation du travail qui sont assez évidents. C'est d'abord au niveau social, c'est d'abord un problème social, vu que, en fait, ça ne paraissait pas évident au premier abord. Vous me contredirez si je me trompe, parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus à même de parler de ce sujet-là que moi ici. Mais j'ai l'impression que dans le milieu du textile, on a tendance à faire croire aux consommateurs que les produits arrivent un petit peu du vide, les produits émergent du vide. C'est comme si tout ce qui était construit sortait ex nihilo et que du coup on ne payait que le produit, mais qu'il n'y avait pas de travail derrière qui servait à la conception. En fait, les prix sont tellement bas dans l'exploitation des pays du tiers-monde qu'on ne se rend même pas compte qu'il y a quelqu'un qui est derrière et qui doit toucher son salaire quand il fait un jean, un t-shirt, et même un masque en tissu. Donc je trouvais qu'il y avait au niveau social d'abord l'invisibilisation d'un travail du textile qui est complètement dévalorisé par la société. Et ensuite, forcément, il y avait un lien qui est devenu très vite évident, c'est celui dont je parlais dans un premier temps, c'est les inégalités de genre. Et en fait, de manière très naturelle, on se rend compte que le travail qui est exploité et qui est dévalorisé, c'est très souvent un travail qui est produit par des femmes. C'est pour ça que je faisais le lien avec ce qui se passe dans les hôpitaux, où les aides-soignants, les infirmières sont souvent des femmes, et que c'est un travail dont on estime qu'il est légitime de le sous-payer, de demander plus, et même de demander du bénévolat par-dessus. Donc c'est ce que Saint-Saulieu appelait la division genrée des tâches, en fait, où les tâches qui sont considérées comme féminines par la société capitaliste sont dévalorisées, en fait, par la société. Et enfin, il y a un troisième point que je trouve aussi très important et qui, là, fait écho à ce que je disais au début, c'est qu'il y a eu un matraquage médiatique et linguistique qui nous amenait à nous sentir inutiles quand on n'était pas engagé, à survaloriser le travail du bénévole, comme si c'était devenu des super-héros dont on avait besoin, mais tout en jouant un petit peu sur le fait que le bénévolat faisait suite à l'ennui. Très souvent, dans les reportages que je voyais, on montrait des gens qui étaient engagés dans le bénévolat, et c'est genre, il s'ennuie, il a envie d'être utile, du coup il s'engage, comme s'il y avait un vide à combler. Et ce qui laisse sous-entendre que nous, en tant que citoyens, si on n'est pas capable de s'investir et de combler ce vide, du coup on est juste en train de ne rien faire, on est juste en train de glander. Et donc cette utilisation de la linguistique par les médias et par les politiques, en fait, hein, qui survalorisait le bénévolat, tout en rabaissant le travail textile à un travail de loisir qu'on fait chez soi quand on a le temps. On produit comme ça 50 masques après le boulot, on en fait 50 et c'est facile.
Et c'est d'autant plus beau que c'est gratuit.
Et c'est d'autant plus beau que c'est gratuit. Donc voilà, c'est les trois points que j'ai fait sortir dans l'analyse. C'était le problème social, la question du genre, et qui fait suite à une dynamique d'oppression patriarcale, hein, finalement. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot pour ça. Et une réappropriation linguistique de termes qui arrangent les médias et surtout les politiques pour nous faire nous engager et nous faire croire que nous prenons part à la société, alors qu'en fait, ce n'est que de l'exploitation de travailleurs précaires, comme d'habitude.
On va passer peut-être à Amélie et Marie. Vous êtes donc très, très vite mise à coudre des masques pour dépanner une série de gens. Peut-être vous allez commencer par préciser chacune un peu dans quel cadre, c'est-à-dire pour qui vous avez cousu des masques. Peut-être Amélie, explique-nous un peu.
Alors, moi j'ai commencé à coudre tout de suite des masques, même avant au moment où les politiques disaient qu'il ne fallait pas en coudre. Parce qu'il fallait pas de masque, parce qu'il n'avait pas de masque, et il justifiait ça par le fait qu'il ne fallait pas avoir de masque. En fait, moi, mon expérience, ça a été le roller coaster émotionnel, parce que en fait, toutes les semaines, il y avait un son de cloche différent. Là. Donc, au début, je me faisais insulter parce que je me suis mise à coudre des masques pour moi et j'ai proposé d'en faire aux gens, et les gens me disaient, mais non, à la télé, ils disent que c'est hyper dangereux, les gens comme toi, vous êtes complètement idiots de coudre des masques alors que. Les gouvernements disent qu'il ne faut pas avoir de masque parce qu'on ne sait pas bien les porter. Donc ça a commencé comme ça.
Et tu les faisais donc au départ pour des proches ?
Donc moi j'ai commencé par coudre pour mes proches. Et ensuite j'ai fait un tutoriel que j'ai mis sur internet parce qu'il y avait un des masques que les gens se transmettaient. C'était un masque proposé par un hôpital français. Et ils avaient mis le patron du masque, c'est-à-dire la pièce à découper, mais il n'y avait pas de tutoriel pour aller avec. Mmh. Et bon, il a beau y avoir... à ce moment-là, il n'y avait pas encore beaucoup de masques, de tutoriels sur les masques. Donc, sur Facebook, j'ai mis un tutoriel. Je me suis donné le mal de le faire en me disant, si ça intéresse des gens, ce masque-là, voilà comment on le coud. Et genre, deux semaines après, j'ai viré le tutoriel après avoir reçu des insultes de partout. Sur mais non, c'est dangereux de faire des masques. Et sur deux, ah mon Dieu, ce masque-là, il y a une couture, centrale, et ça, c'est hyper dangereux, donc ne le fais pas. Donc à un moment, j'en pouvais plus de cette prise de tête, et j'ai arrêté d'être sur les réseaux sociaux, et là, j'ai cousu à la chaîne des centaines de masques pour une voisine qui bossait avec des personnes âgées dans une seigneurie. J'en ai fait pour Le Refuge, qui est une ASBL. J'en ai fait pour beaucoup, beaucoup, beaucoup pour Douche Luxe.
Mm-hmm. Il faut dire que tu tiens aussi un atelier aussi. À recoudre et un atelier de réparation textile.
Exactement.
Tu préciser ce qu'est Douche Luxe aussi.
Ah oui, ouais. Douche Luxe, oui. Vas-y.
Donc c'est un centre d'accueil de jour et notable parce qu'en fait, pendant le confinement, c'est le seul centre d'accueil de jour qui n'a jamais fermé pendant le confinement. Mm-hmm. Ils ont tourné avec une équipe très limitée et ils ont fait un travail formidable. Et donc, heureusement que ça n'a pas fermé parce que c'est un endroit dédié à l'hygiène, c'est-à-dire c'est pour aller faire des lessives et se laver. Et c'est un petit peu la moindre des choses dans le cas de pandémie de pouvoir avoir accès à ce genre de choses. Mais ce n'était pas forcément gagné. Mais donc, moi, je fournissais, comme pour pouvoir entrer dans Douche Luxe, pour aller prendre sa douche, il fallait un masque et qu'il n'y avait pas de masque.
Ah non, au début, ils étaient là avec des essuies de cuisine. Quoi.
C'est ça. Donc, à un moment, j'avais un stock de tissu là-bas. J'ai vu sur les photos qu'ils avaient découpé le tissu que j'avais là-bas. Et donc, je me suis dit, autant leur faire des masques. Donc, j'ai cousu des centaines de masques comme ça. Et à un moment, j'ai vu passer les annonces du gouvernement disant, voilà, ou je sais plus, c'était la région Bruxelles qui disait, oui, on organise on cherche des couturières pour réaliser des masques. J'ai honnêtement considéré le truc parce que ça me coûtait cher en matériel. J'avais découpé mes draps, le prix de l'élastique, c'était le prix du caviar à peu près à ce moment-là. Mais j'ai quand même choisi de ne pas le faire parce que je ne le sentais pas. Et là, Marie, elle est allée là-dedans, elle va nous en parler.
Toi, tu t'es vite tournée vers des demandes officielles, en fait.
C'est ça. En fait, en étant en télétravail complet, en ne pouvant de toute façon pas beaucoup sortir, personnellement, j'en avais pas vraiment besoin. Mais on s'appelait très régulièrement avec ma grand-mère, qui était du coup fort isolée, mais heureusement en bonne santé, tout ça. Et c'est elle qui m'a dit, bah oui, mais moi, en transport en commun, je sais pas trop où en trouver, et tout ça. Et je me suis dit, je vais déjà en coudre pour elle, lui envoyer par la poste. Je me suis sentie un peu comme en temps de guerre, comme ça, d'envoyer des rations. Enfin bon... Et puis, c'est en reprenant le contact, parce qu'on était fort enfermés, mais après, on a pris un peu le contact entre participantes de la boîte à recoudre, justement. D'autres avaient déjà commencé, avaient déjà reçu leur colis. Je me suis dit, ben, en fait, oui, je vais continuer, je vais m'intéresser à ça. Et là, c'était vraiment organisé par la ville de Bruxelles, différents intervenants, mais qui s'étaient réunis, et où on recevait effectivement tout le matériel. Donc je me suis dit comme ça, ouais, ce que je vais faire, ce sera bien. Mais c'était déjà très contradictoire, parce que c'était une seule couche de tissu, alors qu'on lisait partout. Moi, ce que j'avais fait pour ma grand-mère, limite, c'était imperméable, en fait, parce que c'est ce qu'on disait à certains moments, il fallait rajouter une couche au milieu de
oui, il fallait pouvoir rentrer quelque chose dedans.
C'est ça, donc je les ai encore, mais on ne les a jamais vraiment utilisés, enfin bon. Et là, j'ai reçu mon petit colis. Et effectivement, moi, je suis arrivée dans la chaîne assez tard. Déjà, il a fallu presque que j'insiste pour qu'on m'en envoie, parce qu'ils avaient vraiment reçu beaucoup de bénévoles qui étaient intéressés. Et il était marqué sur le petit fascicule qu'on s'attendait à ce qu'on les rende dans une semaine. Mais en fait, en travaillant, moi, je pense que j'ai mis à peu près entre 25 et 30 heures. Ben, en fait, ça fait 3 ou 4 heures de travail par semaine, par jour, pendant une semaine. Et c'était juste pas faisable. Bon, après, on m'a pas trop mis la pression. Mais après ces masques-là, je me suis dit, oui, j'ai envie de me rendre utile, j'ai envie de faire autre chose. Mais c'est pas tenable, en fait. Je vais arrêter là.
Si on peut continuer là-dessus, ce qu'il y a à savoir, c'est que le coût des 50 masques, c'est vraiment... On parlait de pression qui était mise sur les couturières. Donc, avec, dans le deal de départ, c'était vous prenez le matériel pour en faire 50, vous avez une semaine. On le fait, on le fait pas.
On parle bien d'un pouvoir public. Hein,
c'est ça. Et là-dessus, en fait, une fois que les personnes avaient fait les 50 premiers, elles disaient si elles voulaient recevoir un autre kit ou non. Mais personne ne les a prévenus que le second kit, il y aurait 250 masques à faire. En un temps aussi assez, assez rapide. Et donc, les personnes qui se disaient « Bon, allez, je vais reprendre, je vais refaire une semaine ou en faire 50 », tout à coup, elles se retrouvaient avec 250. Et là, on leur mettait la pression en disant « On vous a envoyé le matériel pour 250. Quand est-ce que vous le rendez, quoi ?» Et les personnes que je connaissais, elles étaient « Ah, moi, j'ai pas signé pour 250. Ils m'ont livré le matériel. » Je disais « Mais non, personne m'a demandé si je pouvais faire ça et je peux pas, en fait.
» Ah oui. Et on a très vite commencé à échanger des astuces pour aller plus vite, pour être plus efficace, parce que c'est notre... professeur, l'autre animatrice qui nous a dit, en fait moi je l'ai fait à la chaîne, je coupe pas les fils, comme ça tu gagnes au moins 15 secondes par masque, et on cassait toutes nos aiguilles sur les élastiques, on a fini par en parler, mais on s'attendait pas effectivement à après être mis, et j'en connais une qui a voulu refuser en disant, voilà j'ai fait ma part mais c'est pas possible. Et c'était très mal pris de dire « Ah, mais vous voulez plus participer à l'effort collectif ?»
Ah oui.
Juste, est-ce que vous avez une intuition sur les raisons qui font qu'il n'y a que les couturières qui n'étaient pas payées?
Franchement, c'est comme tout, quoi. En fait, c'est même ce que je disais tout à l'heure quand on préparait l'émission, c'est même les couturières que je connais, il y en a quand elles parlent de leur travail. Enfin, leur travail. Alors, elles ne gagnent pas d'argent, mais quand elles parlent de ce qu'elles coûtent, même si elles ont un super niveau et qu'elles font des trucs de folie, elles disent « Oh, ma cousette en cours, c'est ça !» Elles utilisent le mot « cousette » pour décrire ce qu'elles sont en train de fabriquer. Il y a un truc internalisé...
Intériorisé.
Intériorisé, pardon. De ce qu'on fait n'a pas de valeur, parce qu'on le fait chez nous et parce qu'en en fait, on en revient toujours au fait qu'il y a un donneur d'ordre ou non. En fait, à un moment donné, il y a quelqu'un qui voulait acheter des masques et qui disait « Oh, j'ai vu qu'il y avait un entrepreneur qui s'était lancé, je vais le contacter. » Et en fait, c'était sur Internet encore. Et là, avec une copine, on lui a dit « Tu sais, tu peux acheter directement aux couturières parce que comme ça, l'argent va directement à la personne qui coud. » Et il a fait deux réflexions. Un, la couturière, elle se fait payer, elle veut faire des bénéfices. Et deux, le donneur d'ordre, il nous a dit que ça le rassurait d'avoir affaire à quelqu'un qui travaillait pour... que les couturières travaillent pour un donneur d'ordre, parce que le donneur d'ordre, il sait. La couturière, elle n'a pas pris le temps.
Elle exécute, quoi.
Elle exécute, mais elle n'est pas très intelligente, la couturière. Elle ne va pas lire tous les articles, elle ne va pas se renseigner. Le donneur d'ordre, par miracle, il a toutes les bonnes informations, il va forcément faire commander du bon travail, parce que c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est pas un manuel. Mais franchement, c'est toujours ça, quoi.
Et le problème était aussi qu'au JT et dans les représentations qu'on voyait pour le grand public, c'était un peu des grands-mères qui savaient pas quoi faire de leur temps, qui veulent participer. Et donc, on s'est dit, si quelqu'un peut le faire bénévolement, alors celles qui le font professionnellement, c'est quoi la valeur ajoutée un peu? On avait vraiment du mal à percevoir que c'était vraiment un boulot.
J'ai une question à ce propos, justement, parce que donc, clairement, on était dans une logique de réduction de coûts pour l'État, etc. Et, alors que dans cette chaîne, finalement, de production de masques, il y avait plusieurs instances ou individus qui étaient payés. Par exemple, les fournisseurs qui fournissaient du matériel étaient payés. Voilà. Derrière cette image de l'investissement spontané des bénévoles, j'ai l'impression, d'après ce que vous dites, qu'il y a eu en fait un choix délibéré de ne pas payer précisément le travail des couturières. On aurait pu penser de faire appel à des couturières professionnelles en les rémunérant, comme on a rémunéré d'autres personnes qui étaient engagées dans la lutte contre la crise sanitaire, etc. Donc voilà. Pourquoi c'est ce choix-là qui a été fait ?
Non seulement on n'a pas conseillé de faire appel à elles, mais celles qui l'ont fait, celles qui ont essayé parce qu'elles n'avaient plus de boulot à côté et qu'elles voulaient se rendre utiles, qui ont vendu des masques, soit à prix coûtant, juste pour ne pas y perdre d'argent, soit en faisant des bénéfices, parce que, je veux dire, c'est normal, c'est ton métier, tu as besoin de vivre, on les a insultées. Elles se sont faites traiter de grandes profiteuses de la crise. Je veux dire, pour un masque qu'elles vendaient à 5 euros... quand elle voulait faire un peu de bénéfice, quoi. C'était vraiment, il y en a qui ont arrêté de le faire tout bêtement parce qu'elle voulait plus recevoir des insultes.
Ce qui est donc dingue. Pour bien se figurer la chose, la personne qui te contactait pour te dire tu dois faire sans masque en X temps et c'est pas bien si tu le fais pas, elle était payée. Oui. Et toi, non?
En me préparant un petit peu, je me suis replongée un peu parce que je voulais voir qui avait organisé ça. À l'époque, je me suis pas posé la question. Je me suis dit c'est vachement bien organisé. On me livre le matériel, je le fais gratuitement, mais après je me suis dit mais il y a une organisation là derrière, et j'ai lu, l'anecdote était pas mal, l'initiateur du projet, qui est un homme, a eu l'idée parce que sa femme, qui travaillait dans un hôpital, s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas assez de matériel de protection personnelle, et a dit textuellement, c'était un choix logistique de ne pas faire appel à des couturières professionnelles parce qu'elles n'auraient pas eu les conditions professionnelles chez elles. Et en nous adressant à des bénévoles, à qui ils voulaient, donc pas spécialement des gens justement qui s'étaient posé toutes les questions, quoi. Ça réduisait les coûts, et tout de même, étant une initiative publique, c'est l'argent de l'État et du contribuable qui allait là-dedans. Mais c'est l'argent du contribuable qui l'a payé, du coup, lui.
Et les gens qui livraient, et les gens qui coupaient, et les gens qui vendaient le tissu, encore une fois.
Eux, ils étaient payés.
Et voilà. Ceux qui préparaient les colis, je pense que c'était une entreprise de travail protégée.
Ouais.
Mais ils étaient payés tout de même.
Du taf au fumoir.
J'aurais envie peut-être de prendre un moment aussi pour essayer d'approfondir un petit peu cette contradiction. Hein. Comment ça fait qu'il y a un travail essentiel, qui est reconnu, à ce moment-là, en tout cas, de toute évidence, c'était reconnu comme essentiel, qui requiert des compétences, de l'effort, qui est fatigant, qui est épuisant, et qui, en même temps, est présenté comme un travail qui serait facile, agréable.
Et ne mérite pas salaire.
Et surtout qui ne mérite pas d'être reconnu économiquement. Voilà. On revient à la question de l'invisibilisation et du manque de valorisation de ce type d'activité. Et donc, en vous écoutant, j'ai pensé à un texte que je trouve tout à fait remarquable d'une féministe matérialiste, Silvia Federici, qui s'appelle « L'invention de la ménagère ». Parce que on voit ici qu'il y a clairement un lien très fort entre certaines activités comme la question du travail textile, le genre, hein, donc on associe à certaines activités de caractéristiques supposément féminines et une dévalorisation y compris économique. Je pense qu'il est important de souligner que ce lien-là n'est pas du tout quelque chose d'éternel ou de naturel. Hein. On peut en identifier, on peut en faire l'histoire finalement, en identifier des causes et une origine bien spécifique. Et ce que fait Federici dans ce texte, c'est de montrer que c'est en gros au XIXe siècle, à partir de la moitié du XIXe siècle, que cette figure de la ménagère est en quelque sorte inventée. Donc, dans la première phase de la révolution industrielle, les femmes et les enfants aussi travaillaient à l'usine, hein, donc les femmes de la classe ouvrière, évidemment. Et à ces moments-là, il y a une partie, disons, plus clairvoyante de la bourgeoisie qui se rend compte que dans ces conditions, il devient impossible de reproduire la force de travail. Pour toute une série de raisons, donc non seulement parce que les enfants, en travaillant dès le jeune âge, sont vite épuisés,
mais aussi parce que les femmes, en travaillant, ne peuvent pas s'occuper de l'éducation et de la moralisation de leurs enfants. Et même, Federici cite des journalistes, des textes de l'époque, qui disent, voilà, comme les femmes reçoivent un salaire, elles achètent tout ce dont elles ont besoin, alors qu'elles pourraient le faire elles-mêmes. Hein, elles pourraient le faire elles-mêmes. Donc on se rend compte qu'il y a une activité tout à fait essentielle, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui le travail domestique, qui n'est pas pris en charge, hein, parce que les femmes travaillent comme les hommes. Et ce qui se produit à ce moment-là, c'est en gros des formes d'augmentation relative du salaire des hommes et justement l'invention de la ménagère, hein, l'invention de cette assignation à la femme d'un travail domestique qui n'est, pour le coup, pas rémunéré à travers un salaire. Alors, c'est là aussi que s'installent certaines idées de la masculinité, par exemple, de l'homme comme gagne-pain sur lequel
repose... Celui qui ramène les sous à la maison.
Le bien-être de la famille. Alors, Federici dit, évidemment, ces mécanismes commencent à se transformer, notamment à partir des années 1960-70, notamment avec un retour progressif des femmes vers le travail salarié, mais sans changer ce qu'on peut appeler la division sexuelle ou genrée du travail, ce qui produit deux phénomènes parallèles, celui de double emploi, hein, donc les femmes travaillent dans leur emploi salarié et en plus doivent se charger du travail domestique, ou bien le fait d'engager pour faire le travail domestique d'autres femmes, généralement, qui d'ailleurs ont dû normalement se déplacer de très loin en abandonnant leurs affects, leur famille, etc., pour donc s'occuper du travail domestique des familles occidentales. Je pense que c'est important de garder ce processus à l'esprit pour se rendre compte que cette assignation de certaines activités aux femmes parce qu'elles auraient, hein, soi-disant, un penchant naturel vers des activités de soins, est en fait une construction sociale très, très déterminée et qui a une histoire bien précise. Mm-hmm. Amélie, est-ce que dans ce que tu dis sur le fait qu'on a pratiquement fait des reproches aux personnes qui cousaient des masques et qui attendaient.
On a même fait des reproches, non, pas seulement à celles qui se faisaient payer, mais celles qui demandaient juste 3 euros pour payer le matériel. Parce qu'encore une fois, je rappelle, moi, je ne me remets pas de l'argent que j'ai claqué dans des élastiques. Ça coûtait une fortune.
Que les prix, tu disais, ont monté.
Ah oui, les prix des élastiques ont monté. Mais après, c'était tellement dur d'en avoir qu'à un moment donné, tu prenais, quoi.
Est-ce que dans ce reproche, est-ce qu'on pourrait aussi l'analyser peut-être comme une autre expression, finalement, d'une certaine vision, voilà, patriarcale, sexiste, etc., de la femme, hein, comme si, voilà, si les femmes souhaitent se faire payer pour leur travail, c'est comme voilà. Si c'était étrange, hein, quelque part.
Mais c'est ça, voilà. tant qu'on est la petite main, tant qu'on est la personne un peu invisible, voire un peu victime, qu'on plaint de travailler dans des sales conditions, tout va bien. Mais à partir du moment où on prend le truc en main, où il n'y a pas de donneur d'ordre, on est son propre donneur d'ordre, il y a deux trucs. Il y a un, on ne nous fait pas confiance. Vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'anecdote que j'ai racontée, c'est vraiment quelqu'un qui disait « Non, je n'ai pas confiance dans la couturière qui fait un travail manuel, moi j'ai confiance dans le donneur d'ordre. » Alors que moi, je savais très bien que le donneur d'ordre, il n'avait pas plus d'infos que moi. Mm-hmm. Mais il y a le côté, il y a la crédibilité du fait que quelqu'un dont on ne sait pas exactement ce qu'il fait a réfléchi et ce n'est pas quelqu'un qui fait un travail manuel. Mais il y a aussi le fait que une femme qui fait des bénéfices toute seule, sans qu'il y ait un donneur d'ordre qui prenne les bénéfices et qui lui donne ensuite un peu les miettes. Ouais. La femme qui ne se contente pas des miettes. Mais quand on préparait l'émission, je vous parlais de la comparaison avec OnlyFans, qui est donc un site de pornographie, mais où justement les personnes qui produisent la pornographie sont aussi les personnes qui sont les modèles. C'est-à-dire au lieu de juste poser pour des donneurs d'ordre, encore une fois, pour des photographes, pour les producteurs, pour les machins, au lieu de poser, ce sont souvent des femmes, les femmes elles prennent tout en main, elles se filment elles-mêmes, elles s'habillent elles-mêmes, elles font leur publicité elles-mêmes, et donc tout l'argent, c'est le même prix que les gens paieraient pour de la pornographie à papa avec un donneur d'ordre, mais tout l'argent va à la femme qui est derrière, à part un petit peu pour OnlyFans. Et là, ça fait scandale parce que elles sont vénales. Mmh. On est là, mais vous croyez que les femmes qui faisaient de la pornographie, elles le faisaient pour autre chose que pour gagner
pour
leur
plaisir.
Vie
enfin,
mais là, le truc, c'est qu'elles gagnent tout l'argent. Et ça, c'est ça le problème du truc. C'est vraiment, elles gagnent toute la thune au lieu d'avoir un donneur d'ordre qui gagne la majorité de la somme. Parce que tout à l'heure, on parlait du prix d'un t-shirt chez H&M, par exemple. Il faut savoir que le prix d'un t-shirt chez H&M, c'est déjà bas, mais il faut savoir qu'il y a les deux tiers à peu près, je ne me souviens plus des chiffres exacts, mais je crois qu'il y a les deux tiers qui vont dans le magasin et l'argent qui va aller aux actionnaires, en fait. Le prix qui est déjà bas, vous le diminuez fortement, vous enlevez les transports, vous enlevez tous les intermédiaires, et il y en a beaucoup, et vous avez le prix qui est payé, et vous enlevez la matière première, et vous avez le prix qui est payé la personne. Pour un t-shirt, c'est des centimes. La personne qui a cousu le t-shirt, enfin, c'est cousu à la chaîne, mais les personnes sont payées des centimes sur le t-shirt que vous achetez 5 euros. Et donc, tout l'argent va non seulement dans le matériel et dans les intermédiaires, mais dans les bénéfices pour les actionnaires.
Il y a cette fameuse courbe de la valeur, notamment par rapport à la filière du textile, qui prend la forme d'un sourire, où on voit que, en fait, la valeur de la vente d'un produit textile se distribue surtout en amont, donc au moment de la conception, donc où vous avez des stylistes, par exemple, généralement occidentaux, qui travaillent pour des boîtes occidentales. Ensuite, l'autre sommet de la courbe est en aval, au moment de la distribution, alors que la courbe descend, comme pour un sourire, et se trouve à être particulièrement basse au moment de la confection. Donc, précisément là où il y a des femmes qui reçoivent, qui travaillent pour un donneur d'ordre, etc., pour rien. Et je trouve, on aurait pu s'attendre ou espérer de cette expérience autour de la production de masques que, du moins, on se rende compte socialement du temps de travail que ça requiert et qu'on fasse une sorte de, du moins, minimum d'exercice mental pour essayer d'associer le prix et le temps de travail qu'un produit textile requiert réellement. Et donc faire le lien avec le caractère absolument ignoble, inacceptable des rémunérations des travailleuses de textile dans le sud et l'est du monde. Et aussi, par ailleurs, avec tout ce que tu viens de dire, donc le fait que quand il y a des travailleuses qui demandent une valeur qui correspond plus ou moins au temps de travail réel que ça requiert de produire un vêtement ou un masque ou que ce soit, alors il y a cette réaction de reproche, de vénalité qui leur est adressée.
Je pense que tout ça pose la question du bénévolat en général aussi. Enfin, moi, dans mon esprit, le bénévolat, ça ne doit se faire que dans un cadre où c'est du win-win. C'est-à-dire que tu peux faire du bénévolat dans la mesure où ça t'apporte quelque chose. Et donc, où est la limite et tout. Toi, Fabio, peut-être tu as une réflexion là-dessus sur le... Dans quel cadre on recourt au bénévolat, où sont les limites à ne pas dépasser? Quelles sont les bonnes questions à se poser aujourd'hui, quoi?
Oui, en tout cas, je pense que tout ce qu'on vient de dire jusque-là, ça révèle assez bien un certain nombre de problèmes ou de contradictions qui tournent autour de cette question du bénévolat. Je pense que il y a peut-être le problème se situe au niveau de l'image qu'on se fait du bénévole, en quelque sorte. On a cette image du bénévole comme quelqu'un, comme un bourgeois qui gagne bien sa vie, qui est relativement aisé et qui donne un peu de son temps pour une bonne cause, une cause sociale, morale, etc., etc. Et alors évidemment, ça existe, c'est très bien que les gens aient envie de donner de leur temps pour des bonnes causes, mais je pense qu'il faut constater, du moins aujourd'hui, je dirais du moins deux problèmes. D'abord, on se rend compte souvent quand on parle avec des gens qui font du bénévolat, que les conditions du bénévolat, souvent, évidemment, il ne faut pas généraliser, les conditions du bénévolat, souvent, sont telles que les bénévoles se trouvent pratiquement dans une situation de burn-out ou sur le seuil du burn-out par leur activité de bénévole. Ah, donc, comme si ces personnes travaillaient, en fait, pour une boîte privée quelconque, ou même, pire encore, parce qu'en plus, elles sont censées aimer ce qu'elles font dans le cadre du bénévolat. Donc ça, c'est un premier phénomène. Et l'autre, j'ai l'impression que justement, cette figure du bourgeois qui donne de son temps, alors ça existe toujours, sans doute, mais il y a une autre figure de bénévole qui se développe de plus en plus, où le bénévolat devient une sorte de dernier recours pour certaines personnes, surtout les personnes qui sont exclues du marché du travail, pour avoir un petit revenu à travers le défraiement bénévole, ou même simplement pour faire preuve de bonne volonté sociale à l'égard des organismes de contrôle dont dépendent leurs allocations de chômage ou autre. Donc en fait, il y a, je pense, un risque que, au nom de la solidarité, il y ait des formes structurelles de travail extrêmement précaire, sous-payé, qui ne donne accès à aucun droit social, qui se développe. Alors je renvoie simplement à ce propos à une carte blanche qui a été écrite par la plateforme francophone du volontariat au moment où l'État belge a décidé, pour rémunérer les bénévoles qui travaillent dans les centres de vaccination pour le Covid, a décidé d'augmenter le plafond annuel de défraiement des bénévoles, jusqu'à, d'après cette carte blanche, jusqu'à 5 000 euros. Et ce que disent les auteurs de la carte blanche, c'est que apparemment la Belgique est le seul État qui a décidé d'utiliser le dispositif de bénévolat pour rémunérer les personnes impliquées dans la campagne de vaccination. Ces personnes auraient pu être engagées avec des CDD plus classiques, par exemple. Et donc la carte blanche démontre que clairement, ici, le bénévolat est utilisé pour payer des travailleurs avec un salaire au-dessus du minimum légal et qui ne donne accès, justement, à aucun droit social. Donc voilà, je pense qu'il est tout à fait normal, hein, par exemple, pour une association vouloir aider des personnes qui collaborent avec elle, surtout s'il y a des difficultés financières. Mais il y a un risque, une tendance sociale plus générale qui est celle de précisément mettre en place d'autres formes de travail qui sortent du cadre plus ou moins classique, qui est d'ailleurs en train de se déliter depuis longtemps du salarié.
En fait, ce qui est génial, c'est que il y a le droit du travail. C'est pour ça que le bénévolat est si important. C'est-à-dire que le droit du travail, ça fait qu'il y a des obligations pour l'employeur. À partir du moment où ce n'est pas du travail, il n'y a pas de droit du travail. Il n'y a pas de... t'es plus tenu aux mêmes choses, en fait. Et même, tu ne te sens plus tenu aux mêmes choses, puisque ce n'est pas du travail.
Oui, oui, tout à fait.
Oui, quelque part, tu rends service à la personne en l'employant bénévolement, quoi.
Et ça recoupe ce que tu disais du travailleur qui cherche son propre travail, en fait, et qui est bien heureux de pouvoir se rendre utile, en fait, alors qu'il fait tout à fait le travail à temps plein pour lequel il serait rémunéré normalement.
Bien sûr.
J'insistais sur le fait qu'il ne s'agit pas ici de critiquer ou de remettre en question le bénévolat en tant que tel. Ici, ce qui est problématique, c'est le fait que le bénévolat devient, dans certains cas, la seule voie d'accès à un revenu de survie minimum. Ça vient en fait remplacer
le bénévolat salarié. Vient même nuire aux revendications des travailleurs précaires, en fait. C'est terrible parce qu'en fait, je ne sais pas pour vous, moi j'ai fait du bénévolat toute ma vie d'adulte. Et à chaque fois, je me suis posé la question, est-ce que j'ai raison de le faire? Parce que si personne ne prenait ce travail bénévole, peut-être qu'à un moment, l'État se rendrait compte qu'il faut payer quelqu'un pour le faire. Est-ce que je ne suis pas en train de déresponsabiliser l'État sur tellement de choses en faisant du bénévolat?
C'est une question très difficile en fait, parce que moi aussi je me la suis posée chaque fois que j'ai fait du bénévolat, mais... Tu sais très bien qu'en faisant du bénévolat, souvent, c'est dans des secteurs très difficiles, des secteurs sociaux ou socio-cus, mais avec des publics précaires, avec des personnes sans abri, avec des migrants qu'on héberge, etc. Et tu sais très bien qu'en fait, non seulement t'es pas payé, c'est difficile, c'est parfois très exigeant, mais en plus, t'es en train de faire un boulot que tu n'as pas à faire. Tu vois ce que je veux dire ? Et effectivement, quand tu fais du bénévolat, bien souvent, c'est très questionnant à titre personnel, quoi. Voilà.
Ouais, mais je pense que t'as, comme tu dis, c'est un boulot que t'as pas à faire. Tu disais, Amélie, t'as l'impression de déresponsabiliser l'État. Et, et je crois que c'est le vrai problème, c'est que, en fait, il y a une espèce de burn-out. Tu disais, Fabio, un burn-out, mais je pense que c'est un burn-out militant, en fait. Ouais. Parce que les gens qui s'engagent dans le bénévolat, ils s'engagent dans des causes auxquelles ils croient. Et quand on s'engage pour lutter contre la grande précarité, en fait, on ne devrait pas faire ça. Mais la plupart des gens qui travaillent dans les associations dans lesquelles nous sommes engagés comme bénévoles, ce n'est pas forcément des bourgeois qui ont beaucoup de temps. Des fois, c'est des gens qui sont dans des situations eux-mêmes de précarité et qui donnent de leur temps parce qu'ils croient vraiment dans la possibilité de changer la société en s'activant. Mais sauf que cette activation, elle prend du temps, elle a un coût. Alors, je ne pense pas que la rémunération soit la seule solution, mais ce qui est problématique, c'est que on fasse reposer sur le citoyen la nécessité de donner de son temps pour pouvoir changer la société et éviter qu'il y ait des inégalités et pallier au manquement de l'État, tel que on le voit actuellement avec le problème des masques, c'est-à-dire qu'on fait reposer en dernière ligne sur la bonne volonté de citoyens de s'engager pour pouvoir faire des masques pour que ça coûte pas trop cher, parce que on se dit que toute la logistique est déjà beaucoup trop coûteuse, donc heureusement on a des citoyens qui vont le faire pour pas cher. C'est quand même assez délirant, et les gens qui s'engagent, c'est pas des gens qui sont déresponsabilisés, c'est des gens qui, au contraire, ont, je pense, une profonde empathie et le font parce qu'ils ont besoin de voir les gens s'en sortir. Et vous faites souvent écho de moments où vous vous êtes senti mal à l'idée de mal faire votre travail, ou que les gens utilisent mal les masques, ou quand il y a des reproches. Enfin, c'est psychologiquement, je trouve que la charge mentale est gigantesque, en fait, c'est que ce qu'on fait reposer sur les bénévoles et sur ce que vous avez subi pendant cette période. Je trouve que c'est absolument incroyable.
Mais j'étais tiraillée, moi, quand je me suis dit, est-ce que je continue, est-ce que j'accepte le deuxième colis de 250 masques? Et je me suis dit, je pourrais, mais il y a ce problème que j'aimerais bien que maintenant, ça fait un bout de temps que la crise est installée, on sait qu'on va en mettre maintenant, qu'on est d'accord qu'on en a besoin des masques. Et je me suis dit, maintenant, normalement, l'initiative bénévole, elle devrait s'arrêter. En fait, maintenant, ça devrait être visible que c'est nécessaire, que c'est... En plus, le système est là. Il n'y a plus qu'à instaurer une reconnaissance juste pour ce travail.
Mais il y a eu un moment en France, le moment où vraiment moi j'ai lâché l'affaire complètement sur les masques, c'était pas par rapport aux masques en tissu, c'était par rapport à des amis à moi qui étaient en France, qui faisaient aussi des trucs en impression 3D et qui fournissaient ça aux hôpitaux. Et ce qui est génial, je crois que c'était juste en France et pas en Belgique. Et là, ça m'a tellement choquée. Donc, tant qu'il n'y avait pas de société qui était capable d'assurer et de fournir les visières, ça s'appelle les visières, c'est ça, ouais. Qui était capable de fournir les visières. Toutes les personnes que je connais qui font pour de l'impression 3D ont bossé comme des tarés et payé le matériel de leur poche souvent pour fournir aux hôpitaux des visières. Le jour où il y a eu un fournisseur en France qui pouvait à nouveau fournir, on a interdit et on a menacé de poursuites et d'amendes les gens qui jusque-là en fournissaient bénévolement, parce que c'était pas aux normes et parce que surtout ça empêchait la société de gagner de l'argent. Enfin, c'était vraiment... On leur a dit d'arrêter parce que tout à coup, il y avait un business qui pouvait prendre le relais et qu'il fallait privilégier le business. Et tout à coup, ça devenait illégal de fournir. C'était vraiment incroyable.
Ça, cet exemple, un tout petit quelque part, est absolument remarquable, je trouve, parce que ça montre bien ce phénomène. Enfin, on peut dire que la crise Covid a révélé les faiblesses ou l'incapacité du marché et même plus largement de la logique de l'organisation sociale, disons, néolibérale, de faire face à des situations imprévues. Hein. Donc, toutes les logiques de flux continu, typiquement avec les masques, se sont révélées très, très mauvaises dans ces circonstances. Alors, ce qu'on dit habituellement, c'est que quand le marché, l'initiative privée, vient manquer, hein, donc rencontre ses limites, c'est l'État qui intervient juste le temps où ça redevient profitable. Et alors, du coup, on fait un nouveau appel ensuite, ou plutôt on libère le champ pour l'initiative privée. Alors ici, c'est encore pire, hein, quelque part, parce qu'il y a eu un manquement évident et une incapacité du côté de l'initiative privée. Et quand je dis privée, c'est, je ne dis pas les bénévoles, mais l'initiative marchande, hein, qui vise le profit. Il y a eu un manquement énorme à ce niveau-là. Et ce qui est intervenu pour boucher le trou, c'est même pas l'État directement, mais en fait des initiatives citoyennes, hein, des
volontariats et des bénévoles. Et quand l'État est intervenu, c'est pour menacer les bénévoles qui risquaient de nuire au business qui se remettait en route. Quoi. C'est vraiment le moment où l'État est intervenu, c'est ce moment-là.
Et ça, c'est génial, parce que souvent, quand on réfléchit à ces questions, on a tendance à opposer un peu simplement le marché et l'État. Hein. Donc, le marché, ça fait l'intérêt des privés, alors que l'État, ça fait l'intérêt général. Alors que là, on voit bien avec ces exemples que dans la société actuelle, l'État est là simplement, hein, pour sauver le marché d'un côté et donc pour intervenir, hein, quand ce n'est plus possible, quand le marché ne fonctionne plus bien, et simplement pour garantir en fait les conditions pour la reprise, hein, des activités profitables et de la valorisation du capital. Exactement. Au final. Hein, donc ce n'est pas du tout une opposition métaphysique entre l'État et le capitalisme.
Et d'ailleurs, il y a une anecdote qui m'avait fait sourire à l'époque où je faisais mes recherches sur les Fab Labs et les hackers. Parmi les gens qui travaillaient à la conception de visières et de masques, la plupart sont militants pour les communs, les logiciels libres et du coup sont pour les licences Creative Commons. Et je leur demandais, mais du coup, les masques que vous faites, c'est Creative Commons, c'est libre? Ils disent, non, ça on a mis un brevet dessus. Mais on n'a pas mis un brevet dessus parce qu'on a envie de se faire du fric dessus. C'est que si on n'en met pas, l'État va le récupérer, le vendre à des sociétés privées et ils vont se faire du pognon dessus, alors que nous, c'est nous qui avons travaillé à la base. C'est-à-dire que le vol organisé par l'État, qui est le premier bénéficiaire des produits, hein, les visières sont d'abord envoyées à l'État, qui les redistribue, parce que c'est dans les collectivités locales que c'est envoyé, puis ensuite redistribué dans les communes et dans les villes, ben là, ils savent que si jamais ils mettent pas de brevet, ils vont se le faire voler absolument. Donc les Fab Labs étaient obligés d'aller à l'encontre de leur principe moral de base, qui est la non-propriété et la mise en commun des savoirs, pour pouvoir se protéger contre une exploitation de leur propre savoir.
Mais dans un autre ordre d'idée de profit, il y a quand même des communes où des couturières bénévoles ont dû coudre des masques avec des logos de parti dessus.
Mon Dieu.
C'est quand même ahurissant.
Du taf au fumoir.
Je voudrais faire encore une petite remarque en revenant sur la question du bénévolat en général, parce que c'est un peu de choses qu'on a dites. On fait penser que ce serait intéressant en quelque sorte de faire une sorte d'exercice mental et imaginer qu'est-ce que ça donnerait une grève du bénévolat. Et je pense que ça serait la catastrophe sociale.
Hein.
Donc, pour tout ce qu'on a dit, il y a toute une série d'initiatives bénévoles qui interviennent à des endroits clés, absolument essentiels de la reproduction sociale, et dont ni l'État ni le marché ne se chargent. Alors, là se pose la question essentielle. On a abordé exactement, on a abordé le même problème quand on a discuté il y a désormais 2 ans, je pense, avec les Blouses Blanches, hein, qui disaient le problème fondamental dans nos luttes politiques, c'est que fondamentalement, on ne peut pas faire de grève, on ne peut pas faire de vraie grève parce que les gens ont besoin de nous. Et je suis sûr, hein, que si on réfléchissait aux formes de grève du bénévolat, on ferait face à la même impossibilité. Hein. Donc on ne peut pas arrêter d'être bénévole, on ne peut pas arrêter de faire ce qu'on fait parce qu'il y a des gens qui vont
pâtir
très fort, avoir à mourir en fait. Donc à nouveau, ça révèle combien est disqualifié, invisibilisé.
peut-être bien qu'une grève du bénévolat n'impacterait pas du tout les pouvoirs publics, puisque...
Alors, évidemment, l'idée d'une grève du bénévolat est presque une contradiction dans les termes, parce qu'on fait, généralement, on fait la grève pour demander des meilleures conditions de travail et des meilleures conditions salariales, alors que le bénévole n'est pas rémunéré. Mais en même temps, on peut aussi faire des grèves politiques, hein, donc on arrête de travailler parce qu'on considère que les choses qu'on fait devraient être prises en charge autrement, de manière plus sérieuse, etc.
Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de l'âne de Cavanna. C'est Cavanna, dans son livre L'héritage, racontait l'histoire favorite de son père. Et moi, cette histoire, elle m'a toujours marquée. C'est un type qui a un âne, et puis il le nourrit tous les jours, il donne la même quantité de trucs à manger. Et puis à un moment, il a un peu moins. Un jour, il dit, exceptionnellement, je lui donnais un peu moins. Et puis l'âne fait sa journée de travail normale. Et il fait, je lui donnais trop à manger, donc à partir de maintenant, je vais lui donner moins. Et puis, quelques temps plus tard, il fait, peut-être que je lui donnais encore trop, donc il réduit encore. Et puis, l'âne continue à fonctionner comme avant. Et puis, peu à peu, le mec réduit la portion de nourriture chaque jour, et à un moment, l'âne tombe mort. Et là, le mec fait, je venais de lui apprendre à plus manger. Et j'ai vraiment l'impression que le bénévolat, c'est ça, c'est-à-dire... On s'adapte, on nous baisse des trucs importants, et puis nous, on compense, parce qu'il faut compenser, on est obligé, on ne peut pas se permettre de ne pas compenser le manque. Et puis le gouvernement fait, ça fonctionne, on va baisser encore un peu plus. Et en fait, à force, le bénévolat, c'est vraiment, plus on compense, plus en face, on se dit, ça fonctionne, le système fonctionne, même si on baisse les aides de l'État. Alors qu'en fait, non, il ne fonctionne pas. Il y a un moment, on va crever, on va tomber comme l'âne parce qu'on ne va plus pouvoir assurer derrière. Et à ce moment-là, il sera un peu tard. Parce que tellement de choses n'auront plus reçu de financement. Les lois auront changé, trop de choses auront changé. Et ouais, en fait, être bénévole, c'est une responsabilité aussi par rapport à ça. Et on en parlait tout à l'heure, on se pose beaucoup de questions quand on fait ça et on se demande toujours si on a raison de le faire, quoi.
Ouais, moi je me demande s'il faudrait même pas carrément aller plus loin et faire une grève du travail des femmes, tout simplement, parce que c'est un peu ça le sujet.
Il y a la grève des femmes depuis 2 ans, là. Évidemment, c'est difficile aussi quand t'es une femme.
On peut pas toujours se permettre d'y prendre part.
Et que tu rends du boulot et que t'as la charge de travail domestique, etc. C'est difficile aussi de ne pas l'assurer. Parce que tes enfants, ils doivent bouffer, ils doivent prendre leur bain.
Faire émerger la réalité de ce travail, ça, ce serait... il y aurait sûrement quelque chose à faire pour ça. Moi, je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps que effectivement, le travail de femme au foyer, il n'a pas de vacances, il n'a pas de week-end, il n'a pas de jour férié, il n'y a rien. C'est un travail continu et il faut quand même le faire sortir parce que la société l'exploite, ça.
En fait, c'est le mot pathos qui me revient encore et toujours suite à cette discussion. Il y a vraiment, il y a tout un affect, il y a tout un truc lié à l'affect par rapport au masque et à la couture et au fait que ce soit des femmes. C'est-à-dire, c'est un travail affectif, quoi. On le fait par amour,
de son
par
prochain.
Soin. Et si c'est du pathos, en retour, quand on réclame plus, on a un discours lié au pathos. Mais attends, tu fais ça parce que... C'est ça, en fait, c'est lié au pathos dans la tête des gens, et donc on nous ressort un truc lié à l'affect, quand nous, on demande quelque chose qui n'est pas lié à l'affect, qui est lié quelque chose, à notre droit, en fait, de demander un salaire. Si on décide de demander un salaire pour faire des masques, c'est notre droit, et personne ne devrait traiter ça comme quelque chose de fou et de vénal, en fait. Parce que en fait, on n'est pas. En fait, toutes les couturières qui essayaient de gagner leur vie, toutes celles qui refusaient d'être exploitées, elles n'étaient pas dans l'affect. Elles étaient dans la réalité de leur quotidien. Si nous sommes dans une société capitaliste et que des gens font du bénéfice sur le truc, pourquoi est-ce que nous on devrait travailler bénévolement? Mais il y a toujours ce truc de. Mais parce que vous faites ça parce que vous avez du cœur.
Ouais.
Alors qu'en fait, vous avez la force.
Ouais, je sais pas si... Enfin, tout le monde, franchement, c'était pas une question des couturières ou de femmes ou de... C'est... plein de gens ont fait plein de choses aussi pour pas sombrer dans la dépression.
Aussi, pour faire des choses.
Ouais. Mais il y a eu ce discours-là. Il y a plein de secteurs qui sont mobilisés. En fait, là, évidemment, on parle de la couture. Mais donc, on était un peu entre le fer et l'enclume de... vous pouvez pas vous plaindre. Il y en a d'autres où c'est pire, en fait, où ils doivent aussi tout le temps donner d'eux-mêmes. Mais c'est pas... On n'est pas dans le don, là, on rend un service, en fait.
Eh bien, merci beaucoup. Merci Arnaud, merci Amélie, merci Marie, merci Fabio et merci Raphaël. Vous trouverez tous les liens qu'on a évoqués dans cette émission et tous les liens qu'on trouve intéressants à vous montrer dans la description de cet épisode.
C'était Du Taf au Fumoir, le podcast de l'ARC, Action et Recherche Culturelle.
Dans la société actuelle, l'État est là pour sauver le marché d'un côté, pour intervenir quand le marché ne fonctionne plus bien, et simplement pour garantir en fait les conditions pour la reprise des activités profitables et de la valorisation du capital au final.
À la présentation, Anne Leventhal, à la réalisation et au montage, Raphaël De Slover, avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Tous les documents auxquels nous avons fait référence dans le cadre de cet échange se trouvent sur notre site internet arc-culture.be.